La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, pour la dernière émission de ce mois de novembre, avant l'émission de Contradictoire, un débat finalement qui nous oppose, Jean-Christophe René et moi-même, autour de la perception du texte de Jacques Maritain, je voudrais voir avec vous les liens entre philosophie et théologie. Ces liens sont énoncés donc dans les conclusions qui constituent le deuxième chapitre, Nature de la philosophie, de l'introduction générale à la philosophie de Jacques Maritain, œuvre écrite en 1920, publiée en 1920 exactement. Avant de partir dans son texte, je vais vous proposer une réflexion qui appartient à une œuvre ultérieure, Approche de Dieu. Œuvre dans laquelle il reprend les cinq, on va dire, voies de ce qu'on appelle les preuves de l'existence de Dieu en philosophie générale. En philosophie traditionnelle, il y en a cinq. Et Maritain en ouvre une sixième. Et cette sixième est, à mon avis, un bon narthex, un bon porche d'entrée pour entrer justement dans cette cathédrale. Voici son texte. Les opérations de l'intellect humain sont dans le temps et soumises au temps d'une manière extrinsèque, en raison de la matérialité des sens et de l'imagination à l'exercice desquels elles sont liées. Mais en elles-mêmes, elles ne sont pas soumises au flux de l'impermanence. Elles émergent au-dessus du temps, dans une durée qui est pour ainsi dire une imitation déficiente de l'éternité, parce qu'elle est la persévérance dans l'être, des actes spirituels d'intellection ou de saisie contemplative. Elle est ainsi composée d'instants supérieurs au temps, dont chacun peut correspondre à un écoulement de temps plus ou moins long, mais est en lui-même sans écoulement, ni mouvement, ni succession, un éclair d'existence permanent ou non successive. Telle est la durée propre de la pensée. La pensée, comme telle, n'est pas dans le temps. Ces lignes admirables sont peut-être une réponse lointaine à la durée bergsonienne, puisqu'en 1913, nous avons commencé ainsi notre année scolaire, nous avons étudié dans le mois de septembre la différence entre Bergson et Maritain. Page magistrale qui est une sixième voie, finalement, de l'existence de Dieu. La pensée n'est pas dans le temps comme telle. Ce qui nous permet de comprendre que le lien entre philosophie et théologie est un lien particulièrement étudié par Maritain et d'une manière, d'une modalité très subtile et très précise. Pour mieux comprendre, je vais donner la parole à un très grand lecteur de Maritain, le cardinal Cottier, qui énonce finalement le problème de l'historicisme par rapport à la métaphysique. Et c'est ainsi qu'on peut entrer dans cet univers maritainien avec une lecture qui est critique. Il dit que l'effort de rigueur pour acquérir et maîtriser la connaissance de son propre passé est un des traits majeurs de la modernité. C'est ce qu'on appelle le point de vue historique. On va comprendre le contexte, un texte va être transmis par une école, c'est toute l'école actuelle de Alain de Libera, de la philosophie médiévale. Et le cardinal Cottier continue. La prise de conscience qui s'en est suivie des variations culturelles de l'homme et de la distance culturelle que le temps met inexorablement entre le passé et le présent est à l'origine d'une sorte de vertige de la temporalité qui s'est emparée des esprits. Ici, on retrouve Hegel, chez qui l'historicisme n'est pas encore totalement dégagé pour lui-même. D'abord parce que l'idée de contempler philosophiquement la procession dialectique des figures historiques, débouchant dans le savoir absolu, est l'objet d'une sorte d'ivresse de l'esprit. ensuite et surtout parce que le devenir historique correspond, dans le système, à cette sorte d'exemplarité platonicienne qu'est l'enchaînement dialectique des concepts dans la circularité du logos. Mais très vite, l'ivresse est retombée et le logos s'est évanoui. On est attentif comme exclusivement à ce qui, dans la vie de l'esprit, dans sa condition charnelle, est tributaire du temps, et l'on conclut que l'esprit est temps. L'historicisme, comme doctrine philosophique, ou ses variantes relativistes et perspectivistes, n'ont fait que thématiser une attitude de l'intelligence moderne, le plus souvent inconsciente et qui consiste à lier le destin de la pensée à l'histoire et au temps. Le fait que de plus en plus les philosophes aient cédé la place aux historiens de la philosophie est un aspect de ce phénomène. Entrons dans le texte de Jacques Maritain. Jacques Maritain écrit « La philosophie est la plus haute des sciences humaines, c'est-à-dire des sciences qui connaissent les choses par la lumière naturelle de la raison. Mais il y a une science au-dessus d'elle. S'il existe en effet une science qui soit chez l'homme une participation de la science propre à Dieu lui-même, cette science sera évidemment plus haute que la plus haute science humaine, or c'est le cas de la théologie. Le mot « théologie » signifie « science de Dieu », « théologos ». La science de Dieu que nous pouvons naturellement acquérir par les seules forces de la raison et qui nous fait connaître Dieu par le moyen des créatures, comme auteur de l'ordre naturel. C'est une science philosophique, la partie la plus élevée de la métaphysique qu'on appelle théodicée ou théologie naturelle. La science de Dieu, que nous ne pouvons pas naturellement acquérir par les seules forces de la raison, mais qui suppose que Dieu s'est lui-même raconté en quelque sorte aux hommes par la révélation, en sorte que notre raison, éclairée par la foi, tire ensuite de cette révélation les conclusions qu'elle implique, est la théologie surnaturelle ou simplement la théologie. C'est de cette science que nous parlons maintenant. Elle a pour objet quelque chose d'absolument inaccessible au regard naturel de n'importe quelle créature, c'est-à-dire Dieu connu en lui-même, dans sa propre vie divine ou, comme on dit, sous la raison de déité, et non plus Dieu, comme cause des créatures et auteur de l'ordre naturel. Et tout ce qu'elle connaît, elle le connaît en fonction de Dieu ainsi considéré, tandis que tout ce que connaît la métaphysique, y compris Dieu lui-même, elle le connaît en fonction de l'être en général. Maritain va ensuite donner les critères, les caractéristiques de la théologie. Je ne m'y arrête pas, car ce qui m'intéresse, c'est le lien entre théologie et philosophie. Et ce lien, nous allons le voir de plus près après un petit menuet de Jean-Sébastien Bach appartenant toujours à cette première partita.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Quels sont donc les liens entre philosophie et théologie? Maritain en voit trois. À titre de science supérieure, la théologie juge la philosophie de la même manière que la philosophie juge les sciences. Par là, elle exerce à son égard un rôle de direction, mais négative, qui consiste à déclarer fausse toute proposition philosophique incompatible avec une vérité théologique. La théologie contrôle ainsi et tient sous sa dépendance les conclusions émises par les philosophes. Donc, premier rôle, la théologie juge la philosophie. Deuxième lien. Les principes de la philosophie sont indépendants de la théologie, les principes de la philosophie étant les vérités premières dont l'évidence s'impose par elle-même à l'intelligence, tandis que les principes de la théologie sont les vérités révélées par Dieu. Les principes de la philosophie se suffisent à eux-mêmes et ne dérivent pas des principes de la théologie. De même, la lumière par laquelle la philosophie connaît son objet est indépendante de la théologie, cette lumière étant la lumière de la raison qui vaut par elle-même. Vous voyez un lien avec la semaine dernière où le sens commun avait accès à la vérité. Vous voyez un autre lien ici avec la philosophie chrétienne dont on a souvent parlé ou dont on s'est moqué. Heidegger dira « la philosophie chrétienne, c'est un cercle carré ». Pour Maritain, non. La philosophie chrétienne, c'est la philosophie adéquatement prise dans cette intuition de l'être, dans ce sens commun qui sont le premier mode de la connaissance, de l'accès à la vérité. Je crois qu'on est dans un univers, dans la philosophie réaliste, qui est beaucoup plus modéré. Maritain dira « il s'agit de philosophie réaliste ». D'un réalisme modéré, il expliquera ce qu'il entend, ça ne veut pas dire médiocre, ça ne veut pas dire tiède, ça ne veut pas dire intermédiaire. Et il ira plus loin, il dira philosophie critique, c'est-à-dire qui peut intégrer l'apport critique qui caractérise la modernité. Je crois qu'ici on est dans ce deuxième point, dans ce lien entre théologie et Maritain, dans une appréciation juste de l'autonomie de la philosophie. C'est bien l'enjeu de cette philosophie thomiste soulignée dans l'émission du début du mois de novembre, c'est-à-dire il y a 15 jours. Il poursuit ainsi. C'est pourquoi la philosophie n'est pas dirigée positivement par la théologie et n'a pas besoin non plus de la théologie pour la défense de ses principes. Elle se développe dans son domaine d'une manière autonome, bien qu'elle soit soumise au contrôle extérieur et à la régulation négative de la théologie. On voit donc que la philosophie et la théologie sont parfaitement distinctes et qu'il serait ridicule aux philosophes d'invoquer, pour prouver une thèse de philosophie, l'autorité de la révélation, comme il serait ridicule à un géomètre de vouloir démontrer un théorème à l'aide d'un moyen physique, en pesant par exemple les figures qu'il compare. Mais si la philosophie et la théologie sont parfaitement distinctes, elles ne sont pas séparées. Et la philosophie, tout en étant bien parmi toutes les sciences humaines, la science libre par excellence, en ce sens qu'elle se développe suivant des principes et des lois qui ne dépendent d'aucune science supérieure, est limitée dans sa liberté de se tromper, en ce sens qu'elle est soumise à la théologie qui la contrôle du dehors. Au XVIIe siècle, la réforme philosophique de Descartes eut pour résultat de séparer la philosophie de la théologie, en refusant à la théologie son droit de contrôle et sa fonction de norme négative à l'égard de la philosophie, ce qui revenait à dire que la théologie n'est pas une science, mais une simple discipline pratique, et que la philosophie ou sagesse de l'homme est la science absolument suprême, et qui n'en souffre aucune au-dessus de soi. Ainsi, le cartésianisme, en dépit des convictions religieuses de Descartes, introduisait le principe de la philosophie rationaliste qui prétend interdire à Dieu de nous faire connaître par la révélation des vérités qui dépassent la portée naturelle de notre raison. Si en effet Dieu nous révèle de telles vérités, alors nécessairement la raison humaine éclairée par la foi travaillera sur elle comme sur des principes de connaissance et constituera ainsi une science qui sera la théologie. Et si la théologie est une science, alors il faudra bien qu'elle ait fonction de normes négatives à l'égard de la philosophie, la même chose ne pouvant pas être vraie en philosophie et fausse en théologie. Le troisième point, nous l'aborderons tout à l'heure après une plage musicale que j'ai particulièrement à cœur de vous présenter. Il s'agit de la gigue, la dernière danse de cette suite qui constitue la première partita pour clavecin de Jean-Sébastien Bach. Et cette gigue, pour moi, est magnifique parce que j'y vois comme une œuvre quasiment contemporaine où vous avez une écriture en fait très polyphonique à trois voix. Il faut repérer en ayant une oreille qui entend les différentes voix. Et c'est un peu pour moi une image de ce lien organique entre philosophie et théologie. Je ne peux pas vous l'expliquer, il suffit d'écouter.
Philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Le troisième point que Maritain voit dans le lien entre philosophie et théologie, c'est un lien ancillaire. Nous l'avions déjà abordé au mois de septembre. Voici comment Maritain va le nuancer, va le contourner, va le travailler. La philosophie rend à la théologie les plus grands services. En tant qu'elle est employée par la théologie. La théologie use, en effet, pour ses propres démonstrations de vérité établies par la philosophie. En ce cas, la philosophie devient l'instrument de la théologie, et c'est à ce titre et lorsqu'elle sert au raisonnement théologique qu'elle est appelée ancilla theologiae, c'est-à-dire servante de la théologie. En elle-même, en effet, et lorsqu'elle travaille à établir ses propres conclusions, elle n'est pas servante mais libre et soumise seulement au contrôle extérieur et à la régulation négative de la théologie. Ce lien ancillaire, vous le savez, Maritain va le nuancer. Et dans Approche sans entrave, dans Épistémologie existentielle, il dira que le lien de la philosophie à la théologie est un lien organique et il prendra la comparaison de l'embryon dans le sein de sa mère. L'embryon a sa vie propre et cependant il est alimenté par sa mère. Cette organicité, est déjà en germe ici en 1920. Donc Maritain précise, la philosophie prise en elle-même précède normalement la théologie. Certaines grandes vérités d'ordre naturel sont en effet comme le préambule de la foi. Ces vérités qui sont connues naturellement de tous les hommes par le sens commun sont connues et établies scientifiquement par la philosophie. La théologie, qui est la science de la foi, suppose donc avant elle la connaissance philosophique de ces mêmes vérités. La philosophie prise comme instrument de la théologie sert à la théologie de trois manières principales. La théologie use d'elle d'abord pour établir les vérités qui portent sur les fondements de la foi, dans cette partie de la théologie qui s'appelle l'apologétique et qui démontre, par exemple, que les miracles prouvent bien la mission divine de l'Église. Ensuite, pour donner quelque intelligence des mystères de la foi, à l'aide d'analogies empruntées aux créatures. C'est ainsi que la théologie usera de la doctrine philosophique du verbe mental pour illustrer le dogme de la Trinité. Enfin, pour réfuter les adversaires de la foi, c'est ainsi que la théologie expliquera par exemple, par la théorie philosophique de la quantité, comment le mystère de l'Eucharistie ne répugne en rien à la raison. Notez que si la philosophie sert à la théologie, elle reçoit elle-même de la théologie d'appréciables secours. En premier lieu, en tant que prise en elle-même, elle est soumise au contrôle extérieur et à la régulation négative de la théologie. Elle est protégée par la théologie contre un grand nombre d'erreurs. En second lieu, en tant que prise comme instrument de la théologie, elle sert celle-ci, elle est amenée à préciser et affiner certains concepts et certaines théories importantes que, livrée à ses seules forces, elle aurait risqué de négliger. Ainsi, par exemple, la philosophie thomiste doit à la théologie d'avoir été amenée à mettre en lumière la théorie de la nature et de la personne ou à pousser à sa perfection la théorie des habitus. Conclusion. Maritain va synthétiser toute cette pensée en écrivant « La théologie ou science de Dieu, selon qu'il s'est fait connaître à nous par la révélation, est au-dessus de la philosophie. La philosophie lui est soumise, non dans ses principes, ni dans son développement, mais dans ses conclusions, sur lesquelles la théologie exerce un contrôle, étant ainsi règle négative pour la philosophie. » Conclusion de notre mois de novembre. Que penser de cet enjeu de rendre à la philosophie une certaine autonomie, de lui donner sa place par rapport à la théologie? Eh bien, je vais rendre la parole au père Cottier, au cardinal Cottier, qui nous permet de conclure ainsi. Partout prévaut l'idée que la pensée est intrinsèquement dépendante du temps, ce qui a pour résultat d'empêcher de penser radicalement le temps. Le recours, d'ailleurs indispensable aux instances herméneutiques, ne suffit pas par lui-même, sinon à systématiser et à organiser la dérive de la pensée, inévitable si celle-ci demeure enfermée dans un horizon temporel. Ces apories manifestent à leur tour le caractère crucial du problème de la vérité, et ce problème ne peut être correctement traité que si l'intelligence qui pense le temps et dont les œuvres s'inscrivent dans l'histoire prend conscience de ses racines supratemporelles et de sa capacité d'absolu. Dans ce sens, Jacques Maritain a pu dire de saint Thomas que son temps à lui, c'est le temps de l'esprit qui domine les siècles. Le temps de l'esprit désigne la supratemporalité de l'intelligence dans sa vocation métaphysique. Et c'est elle qu'il s'agit de retrouver pour répondre à la crise de la vérité. On le voit réfléchir sur la place de la philosophie par rapport à la théologie, c'est toucher au temps, à l'historicisme et à la vérité. Alors, le dernier mot vous sera donné pour méditer par un moine, un chartreux, donc anonyme, qui écrit « Le contemplatif n'est pas celui qui découvre des secrets ignorés de tous, mais celui qui s'extasie devant ce que tout le monde sait. » Et je dirais que le philosophe fait la même chose, mais lui, en ayant monté par la science, en étant passé du sens commun à la métaphysique. Bonne semaine, au revoir.